Alors, on a eu ce jugement de la Cour supérieure qui en a un mot dit que Montréal, les villes, ont le droit d'utiliser le zonage pour encadrer la malbouffe sur leur territoire. Luc.
Bon, c'est une excellente nouvelle. D'abord, c'est une pratique courante aux États-Unis. Il y a Los Angeles en particulier qui vient de l'interdire carrément tout nouveau restaurant dans toute la partie sud-ouest de la ville. Il y a plusieurs autres villes américaines qui se sont engagées dans cette direction-là. Mais il y a certaines villes américaines, c'est juste pour des questions d'urbanisme et d'esthétique. Ils ne veulent pas avoir un McDonald's au milieu de la rue commerciale. Là, mais tandis que Los Angeles a vraiment été fait sur des questions de santé. Et sur la question de la santé, on peut d'autant plus comprendre qu'il n'y a eu aucun autocontrôle de la part des restaurateurs, propriétaires, promoteurs. On se rend compte que c'est systématique l'idée de les construire à côté des écoles, dès qu'il y a un local de disponible, et en particulier dans les milieux pauvres. Donc, 50 % plus élevé, l'accès à la malbouffe est 50 % plus élevé chez les élèves ayant un accès à deux restaurants minutes ou plus dans une zone de 750 mètres autour de l'école, puis c'est dans les quartiers pauvres. Alors, pour ces raisons-là, je ne verserai pas une larme pour les promoteurs et propriétaires de restaurants de malbouffe.
C'est sûr que vertueusement, on peut pas être contre ça. La malbouffe, l'obésité chez les jeunes est un réel problème. Maintenant, je pense qu'un des enjeux qu'on a, on se retrouve avec aujourd'hui trois paliers gouvernementaux, le fédéral, le municipal et le provincial. Puis là, on dirait que les trois veulent jouer toujours ces mêmes patinoires. Alors là, maintenant, la question d'un plan santé, la question de la santé physique de nos enfants, ça vient d'où? Les trois paliers de gouvernement veulent s'y attaquer. Chacun avec des moyens différents. La réalité, c'est que la ville de Montréal a à peu près aucun moyen. Le seul moyen qu'ils avaient, c'était la question du zonage. Ce que le juge vient de dire essentiellement, c'est la ville a le droit de déterminer quels vont être les zonages. C'est ça que ça dit. Alors, bravo! Selon moi, ça n'avait jamais été remis en question et ça aurait été très surprenant qu'un jugement vienne à l'encontre de ça. Mais il faut se poser quand même des questions. Quand on n'a pas la base fiscale requise et qu'on n'a pas un arsenal complet pour pouvoir s'attaquer à ce problème-là, est-ce qu'on permet aujourd'hui à des différents paliers de s'attaquer petit à petit, à petite mesure, sans concertation à ces problèmes-là? Moi, j'ai l'impression que le problème va se complexifier. On le voit avec le logement social, la question de la malbouffe, et il va y en avoir d'autres. Alors, comment est-ce qu'on règle réellement ça? Est-ce qu'on transfère des responsabilités plus précises aux municipalités qui sont des gouvernements de proximité? Il faut le rappeler, qui sont capables de faire une très bonne job, soit. Mais ayons cette discussion-là, puis je suis pas certain qu'il faut que ça continue à être fait à la pièce comme c'est fait aujourd'hui.
Bon, c'est peut-être pas idéal que ce soit fait à la pièce, mais quand t'as pas tous les outils, ben tu prends ceux que t'as. Tu sais, l'expression, ça dit faire flèche de tout bois. Quand t'as pas le bon bois pour faire une flèche puis que tu te fais attaquer, ben tu prends le mauvais bois. Tu sais, puis le zonage, c'est vrai que ça pose problème parce que dans le règlement, ça dit que on distingue un restaurant de restauration rapide par rapport à un restaurant normal du fait que la nourriture n'est pas servie aux tables d'une part et d'autre part, elle n'est pas servie avec des ustensiles, elle est servie dans du papier, du carton, etc. D'ailleurs, c'est très générateur de déchets. Mais on pourrait avoir des très bons restaurants qui auraient ce comportement-là, tu sais, des restaurants végétariens qui choisiraient de ne pas servir aux tables, et d'emballer.
Le commensal à l'époque. Là.
Oui. Puis on pourrait. Non, mais lui servait avec ustensiles et assiettes. Non, mais tandis que là, dans la malbouffe, c'est décrit que tu ne sert pas dans ustensiles et assiettes. Puis l'autre affaire, c'est que tu pourrais avoir des restaurants de malbouffe qui contournent ce règlement-là en servant aux tables et avec des ustensiles. Mais, tu sais, dans les films d'action, quand le héros se fait attaquer, puis il a perdu son gun, là, puis à la dernière minute, il pogne une fourchette puis il crève l'œil du monstre. Là. c'est un peu ça.
Je m'attendais pas à celle-là, Luc.
Mais tu sais, c'est ça, faire flèche de tout bois. C'est-à-dire, quand t'as pas tous les moyens, tu prends au moins ceux que tu regardes à Airbnb. Quand on a commencé la lutte contre Airbnb, on n'avait pas les moyens légaux pour s'attaquer à eux. Alors, on a utilisé les moyens dont on disposait à l'époque. Et puis, comme eux, de toute manière, ils ont une équipe très, très articulée d'avocats pour essayer de contourner les vrais moyens, ceux qui feraient preuve de la concertation, par exemple, ceux qui seraient l'objet de la concertation, ils réussissent toujours par les contours. Il faut tout le temps que tu te reprennes à trois fois pour faire la loi parce qu'eux autres, ils la contournent trois fois. Bien, moi, je pense que toute initiative faisant mal à un mauvais entrepreneur est une bonne initiative.
Moi, j'ai pas d'enjeu avec ça. Puis les élus municipaux sont pleins de bonne volonté. Ils arrivent là avec des belles idées. Ils écoutent les citoyens. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes l'assiette fiscale qu'ils ont, quand tu regardes les budgets qu'ils doivent gérer, là, c'est plate, là. La police, les pompiers, les rues, l'eau, les déchets, le déneigement. Hey, c'est sûr que c'est pas bien ben excitant. Puis c'est pas avec ça là, que tu vas pouvoir mettre
alors...
sur ta...
Poussons ça encore un cran plus loin. Tu parlais des logements sociaux, là. Qui paye pour les logements sociaux, en bout de ligne? C'est-à-dire, est-ce que c'est la ville qui dit au promoteur, tu vas l'intégrer, puis le promoteur va nous refiler la facture si on achète...
Ben, regarde.
Est-ce que c'est le gouvernement du Québec? Est-ce que c'est un programme Québec-Ottawa pour bâtir des...
Bonne question. L'essentiel du paiement, il vient de soit de Québec, soit d'Ottawa, à travers le programme AccèsLogis, qui peut être financé par le fédéral ou pas. Dans certains cas, il y a des années où ça a été financé par le fédéral. Il y a d'autres, le fédéral n'a pas mis une scène. Il y a des années, pendant 10 ans, le Québec n'a pas mis une scène. Mais en gros, c'est Québec-Ottawa qui paye. En bout de ligne, le promoteur, lui, sa forme de paiement, c'est sous une perte de profit. C'est-à-dire que ce logement-là, il ne coûtera pas plus cher. L'argent pour le construire, pour le faire du logement social, va lui être donné par l'État, mais il aurait pu le vendre plus cher s'il l'avait vendu sous forme de condo. Mais moi, là, avant que je verse une larme, ça va prendre bien du temps, puis un extracteur à larmes. Parce que là, cette année, le coût du condo, le prix moyen... du condo à Montréal. Puis là, on parle moyen à Montréal, sur l'île de Montréal, je ne parle pas du centre-ville, hein, c'est 433 $ le pied carré. À 1 000 pieds carrés, ça te fait un condo à 450 000 $. À 450 000 $, il a augmenté de 10% en un an l'an passé. Ça fait 45 000 $ de plus en coût de vente. La pression qu'on te met avec le logement social, là, elle n'atteint même pas 15 000 $.
Non, mais je comprends, mais ça va être transféré.
Tu l'absorbes en claquant des doigts.
Non,
c'est des profits. C'est les profits qui se sont mis dans les poches depuis les 10 dernières années, se sont enrichis au bouchon.
Le programme 20-20-20, okay, c'est un programme qui est plein de trous. C'est un programme qui met la responsabilité du logement social sur des acheteurs de propriétés neuves qui peuvent acheter un logis, un nouveau logement dans des conditions abordables et le reflipper 6 mois plus tard. Il n'y a rien aujourd'hui dans la loi qui prévoit quoi que ce soit par rapport à ça.
Que du logement abordable.
Non, mais je comprends.
Qui est une
mais...
toute petite portion et que la différence de prix entre le logement abordable et le logement au coût du marché est rendue insignifiante. Parlons du vrai logement subventionné qui est le logement social.
Excuse-moi, c'est 20-20-20, OK? C'est pas une petite partie, c'est le tiers.
Non, c'est 20-20-20 dans le titre. Dans les faits, l'argent s'en va au logement social.
Écoute, Luc, ça n'a pas de sens aujourd'hui de faire supporter le logement, la création de nouveaux logements par des acheteurs de propriétés neuves.
Des appartements qui valaient 300 000 sur le marché, sur le plateau Mont-Royal, il y a 3 ans, je suis bien placé pour t'en parler, je pense, qui valait 300 000, puis qui se vendent 650 000 3 ans après, là, il y a 325 000 de profit ou 350 000 de profit là, qui a été généré en 3 ans. Tu ne me feras pas croire que ça, c'est une charge que le propriétaire a créée lui-même. Là. Ça, c'est du profit.
Excuse-moi, tu es en train de parler là, de l'exemption sur le gain en capital sur une maison privée. Okay? Là, c'est pas de ça dont on parle. Là, on parle de création de loyers neufs. Okay? Quelqu'un qui achète aujourd'hui un logement...
Neuf, usagé, c'est pareil.
Non, quand tu achètes dans un logement neuf aujourd'hui au centre-ville, okay, la Tour du Canadien, va acheter un condo, là, regarde combien ils ont payé il y a 3 ans. Ils n'ont pas fait d'argent depuis 3 ans. Pourquoi? Parce que, ils n'ont pas fait d'argent, je m'excuse.
Il y a quelques tours dans lesquels les acheteurs en bout de ligne n'ont pas fait d'argent. Il y a énormément de propriétaires fonciers qui se sont enrichis au bouchon depuis 10 ans. On a les chiffres.
Mais la question que je me pose, juste parce qu'il faut comme clore, j'achète un appartement à Montréal d'un promoteur, un appartement neuf.
Okay,
la règle 20-20...
Que l'IDU te dit. L'IDU dit, l'Institut de développement urbain, dans sa campagne qu'il est en train de faire, te dit que ça va te coûter 26 000 $ de plus parce qu'eux calculent que...
La promoteur va me la refiler.
C'est ça. Eux calculent 26 000 $ de perte. Ils calculent la taxe du REM, la taxe sur ça m'échappe. En tout cas, la taxe du REM, la taxe sur le logement social, puis la troisième, c'est le fonds de terre, là, le fonds de terre, en tout cas, j'ai oublié. Le nom, ça va revenir plus tard. Les trois ensemble, ils disent que ça atteint 26 000 $. Le Cyrano, qui a fait l'analyse du programme, lui, parle plutôt de 2 % d'augmentation. Et c'est donc nettement moins, ça donnera environ 8 000 $. Donc, c'est entre 8 000 $ et 26 000 $. Et là, l'IDU dit, on va le remettre sur les épaules du consommateur.
De l'acheteur.
Ça qui va se passer.
Les analystes et les experts du problème disent, c'est très, très surprenant, dans un marché où les prix ont explosé dans les dernières années, que ça va être mis sur les épaules de l'acheteur parce qu'ils ont déjà mis les prix au plus élevé possible dans tous les secteurs.
Quand tout le monde est taxé, c'est plus une question d'offre et de demande. Tout le monde est taxé au même niveau. Ça veut dire quoi? Le prix va augmenter globalement et c'est pas aux nouveaux acheteurs à assumer cette responsabilité. Je suis désolé, Luc Ferrandez.
Aux propriétaires et aux promoteurs.
Non.
Bonne fin de semaine et on vous retrouve lundi.
On a le temps de s'accalmer.
Le tunnel La Fontaine.